demeure sainte parce qu'elle a été sanctifiée par le Christ. Mais la sainteté effective de ses membres n'est jamais achevée. Vous voyez ce qu'a dit Saint-Père, il y a trois choses. Trois affirmations à propos de la sainteté. L'Église demeure sainte. Première affirmation. Parce qu'elle a été sanctifiée par le Christ. Donc il faudrait dire, il faudrait commencer. Le Christ est saint. Le Christ est saint. Dieu seul est saint. Dieu seul est saint. Et donc l'Église est sanctifiée par le Christ, numéro 2. Il sanctifie l'Église. Troisièmement, l'Église demeure sainte. Ça, c'est les trois aspects. Et la modalité particulière de la sainteté des membres de l'Église, c'est qu'elle n'est pas achevée. C'est merveilleux de voir à quel point le Saint-Père a une précision extraordinaire, merveilleuse. Qu'est-ce que c'est que la sainteté alors? Vous voyez, quand on dit saint, saint, saint le Seigneur, qu'est-ce que c'est que la sainteté? La sainteté, c'est la perfection. Vous voyez, on est appelé à la sainteté, bien sûr. Hein. Numéro 1, nous sommes ce que disait Mère Teresa tout à l'heure. Nous sommes appelés à la sainteté. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est un des très rares commandements que Jésus donne. Je ne sais pas si vous connaissez les commandements du Christ, mais quand le Christ parle de manière impérative, à l'impératif présent, c'est un commandement. Soyez parfait, comme votre Père Céleste est parfait. Donc c'est un commandement absolu. Et exactement comme votre Père Céleste est parfait. Mais pas comme Sri, je ne sais pas quoi, Aurobindo, ou gourou, je sais pas quoi. Mais c'est vraiment, c'est pas une sainteté humaine. La sainteté est quelque chose qui n'appartient qu'à Dieu. C'est là ce que Jésus veut nous faire comprendre. La sainteté n'appartient qu'à Dieu. Et donc tout le mystère de la sainteté et tout la clé du mystère de la sainteté, ça va être d'essayer de comprendre comment la perfection en sainteté absolue, infinie, substantielle et capitale de Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, va pouvoir se communiquer à nous intégralement, puisque c'est un commandement. C'est bien un commandement. Donc Jésus ne peut pas nous donner un commandement sans que ce soit facile. Jésus, il ne nous donne que des trucs extrêmement faciles à faire. Tandis que la sainteté hindoue est très difficile. Ce que dit Saint François de Sales, il y a deux moyens pour arriver à la sainteté, l'eau et le feu. L'eau, c'est par la pénitence, la thèse, la purification par l'eau. Et le feu, c'est l'amour. Alors Saint François de Sales dit, prenez tout de suite l'amour, le feu, ça va plus vite. Non? Dieu nous aime. Et quand vous aimez quelqu'un, vous lui donnez tout ce que vous avez. Dieu est saint. Ça veut dire, vous voyez, il y a deux choses dans la sainteté. Hein? C'est la question que j'avais dit à un moment, j'ai échappé, je reviens. Qu'est-ce que c'est que la sainteté? Il y a deux critères pour la sainteté. Il faut une pureté absolue. L'être est limpide, pur, cristallin, la pureté est totale. L'amour est pur. L'amour est pur. Le pur amour, c'est un amour lumineux. Et la deuxième condition de la sainteté, pour voir que la sainteté est là, l'amour, il y a la pureté, et d'autre part, le fait que ça déborde, la fécondité. Donc, dès que vous voyez et que vous méditez en vous, et que vous contemplez à l'intérieur de votre âme la sainteté, Vous atteignez en vous le lieu où la sainteté de Dieu est présente et où elle pénètre votre chair. C'est le lieu où vous êtes le plus pur. Et c'est le lieu d'où déborde l'amour. Et plus vous êtes pur dans un amour lumineux, limpide, et plus vous débordez, vous communiquez la grâce. Le mot est lâché, n'est-ce pas, la grâce. Deuxième commandement du Christ, il y a un autre commandement du Christ très important, c'est le commandement qu'il nous communique comme venant du Père. Je ne sais pas si vous connaissez les 13 commandements de la Bible, 13 commandements, n'est-ce pas, 10 commandements dans l'Ancien Testament qui correspondent à l'amour, 3 pour l'amour de Dieu, 7 pour l'amour du prochain, c'est les 10 commandements de Dieu. Vous avez les 2 commandements du Christ, soyez parfaits car votre Père Céleste est parfait, et puis aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc aimez Dieu et son prochain en un seul acte. Il faut aimer Dieu et aimer son prochain d'un seul mouvement, d'un seul acte. C'est les 2 commandements du Christ. Et le Christ nous donne un autre commandement impératif qu'il communique de la part du Père. Il dit ce que le Père veut. Et le commandement du Père est... Qu'est-ce qui connaît le 13e commandement là? Personne ne connaît l'unique commandement du Père. Personne ne connaît ça quand même. Non, non, que vous soyez un comme nous sommes un, c'est le Jésus. Ça. La seule chose que le Père commande. Ah non, ça c'est une révélation, c'est pas un commandement. Ce n'est pas celui-ci, mon fils, écoutez-le, vous comprenez bien sûr. C'est une révélation, il montre. Mais tiens, c'est dans Saint Jean, hein, l'évangile de Saint Jean. Le commandement du Père, c'est... vie éternelle. Ça, il faut l'apprendre par cœur. Le commandement du Père, c'est vie éternelle. Je vous traduis, n'est-ce pas, en langage du catéchisme. Ce qu'on apprenait au catéchisme, c'est de rester en état de grâce. C'est de garder la grâce sanctifiante dans notre âme. Parce que la grâce sanctifiante dépose en nous un foyer ardent de vie éternelle. Quand nous recevons le baptême, nous recevons la grâce sanctifiante. Et donc on ne peut pas parler de sainteté sans voir la sainteté de Dieu, la sainteté du Christ, la manière dont le Christ communique la sainteté à l'Église et la manière dont l'Église vit de la sainteté du Christ. C'est ce que fait Saint-Père là. Il donne toujours les têtes de chapitre pour Saint-Père. C'est pas compliqué. Alors après, il suffit de continuer. Très commode, un pape. Un pape, c'est merveilleux. C'est pour ça le pape, c'est génial. Alors voyez, regardez, c'est la grâce qui explique tout. Ce qui fait l'unité entre les trois, c'est la grâce. La grâce sanctifiante. Alors, dans le catéchisme, vous avez, il y a, qu'est-ce que la grâce? Alors, vous apprenez par cœur, qu'est-ce que la grâce? La grâce... tu te rappelles? La grâce, c'est la vie divine déposée dans notre âme. Combien y a-t-il de sortes de grâce? Réponse. Il y a 2 sortes de grâce. Ça, c'est les trucs à 8 ans, on apprenait ça par cœur. Il y a 2 sortes de grâce. La grâce sanctifiante et la grâce actuelle. La grâce actuelle et la grâce sanctifiante. Quelle différence y a-t-il entre la grâce actuelle et la grâce sanctifiante? Entre la grâce actuelle et la grâce sanctifiante, il y a la différence suivante, c'est que la grâce actuelle est une grâce transitoire, style effusion du Saint-Esprit. J'éprouve quelque chose, je suis attiré, ceci, pendant une heure, pendant un mois, pendant un an, puis après patatras, vous voyez, bon. C'est transitoire, grâce, qui fait que je comprends que Jésus est Dieu, qui fait que, vous voyez, c'est transitoire, c'est une grâce actuelle, vous voyez, actuelle. Tandis que la grâce sanctifiante est une grâce habituelle, elle est perpétuelle. La grâce sanctifiante n'est donnée qu'aux baptisés qui gardent justement l'état de grâce sanctifiante et qui font qu'à partir du moment où ils ont la grâce sanctifiante dans leur âme, Dieu demeure, l'Église demeure sainte. Il n'y a que dans l'Église qu'il y a la grâce sanctifiante. En dehors de l'Église, dans les autres religions, bouddhisme lui-même, il y a la grâce, mais seulement la grâce actuelle, et jamais la grâce sanctifiante. Autrement dit, on peut voir en effet les gens qui vivent de la grâce à certains moments, et qui impressionnent énormément, mais ils n'ont pas la grâce sanctifiante. L'Église demeure sainte. La demeurance de la grâce, c'est la grâce sanctifiante. Et c'est le commandement du Père. Le commandement du Père est vie éternelle. C'est de faire en sorte que la grâce sanctifiante demeure dans notre âme. Ça doit être en Saint Jean, chapitre 10, quelque chose comme ça. Je n'affirme pas. 8 ou 10, non, 10, 10. 9 ou 10. Alors, une fois qu'on a précisé ça, autre précision, vous voyez, du catéchisme un peu plus compliqué pour une année un peu supérieure, avant la communion solennelle. Qu'est-ce que la grâce sanctifiante? La grâce est un habitus antitatif. Non, ça fait la première année de théologie. Des années un peu supérieures. En première année de théologie, le premier cours sur la grâce. La grâce, c'est l'habitus antitatif. Alors voilà, alors, c'est là que va tout jouer. Hein. Ça, c'est de la théologie que je vous fais. Hein. La grâce est un habitus. Qu'est-ce que c'est qu'un habitus? Par exemple, vous n'avez pas de patience. La patience, c'est une qualité. Il y a des gens qui ont une qualité extraordinaire, il y a des gens qui sont qualitatifs. Ils ont une patience, une qualité extraordinaire. Parce qu'ils ont posé des actes successifs, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, et au bout d'un certain temps, ils acquièrent une vertu qu'on appelle la patience. C'est une qualité. Cette qualité, c'est un habitus, c'est un accident. C'est quelque chose d'accidentel qui se surajoute à nous, mais qui n'est pas nous, mais que nous avons acquis, et qui fait partie de notre avoir spirituel. Et qu'est-ce que c'est les choses qui sont antitatives, puisque la grâce est quelque chose d'antitatif, c'est quelque chose... Ce qui est antitatif, c'est ce qui appartient à quelque chose de définitif, de substantiel, de métaphysique, qui est dans l'ordre de l'être, et qui dépasse tout ce qui est accidentel. Par exemple, vous voyez, le fait que j'existe, ça dépend directement de Dieu, c'est antitatif. Ça vient de ens, entis, existant, être, existant, le verbe être, Heidegger dirait étant, l'étant. Alors, antitatif. Ce qu'il y a d'absolument fou dans la grâce, c'est que c'est à la fois un accident, quelque chose qui se surajoute, comme la couleur des yeux, ou un bouton. Un bouton, c'est un accident. Et même nos vertus sont des accidents. Enfin, ce n'est pas des accidents au sens catastrophe, c'est des accidents au sens... qui ne sont pas substantiels, que ce n'est pas quelque chose qui fait partie de notre substance, c'est quelque chose qui apparaît. Par contre, le fait que j'existe n'apparaît pas, ça ne change pas. C'est Dieu qui le crée, et la créature de Dieu est toujours éternelle, donc ça demeure. Donc vous voyez, dans la grâce, il y a les deux choses, et il y a le fait que la grâce sanctifiante, donc vous voyez la grâce au sens fort, cette vie éternelle qui plonge dans notre âme, demeure. Et en même temps, elle s'imprime en nous selon la modalité des accidents, des vertus, des qualités qu'on acquiert. Petite précision assez importante, parce que il va falloir comprendre, parce que c'est justement ça tout le mystère de la grâce, parce que toutes les hérésies, au point de vue prière, au point de vue doute sur la foi, viennent de là, absolument tout. Il y en a qui vont insister surtout sur le fait que la foi s'acquiert, la grâce s'acquiert, et d'autres qui vont insister sur le fait qu'on est prédestiné, on a la grâce, point final. Dieu crée la grâce, tu as ça. Vous voyez, les jansénistes. La prédestination. Calvin, prédestination. On est prédestiné à l'enfer ou on est prédestiné au ciel. Et j'insiste sur le caractère substantiel de la grâce, qui est quelque chose qui dépasse complètement notre volonté, complètement notre... Et ça appartient uniquement à Dieu. C'est Dieu seul. Et en réalité, la grâce ne peut pénétrer sous le mode, justement, de l'habitus que par notre liberté. Or, notre liberté, que dans notre nature, c'est ce qu'on dit toujours, la grâce ne détruit pas la nature. Or, notre nature implique la volonté, le choix et la liberté. Et il y en a d'autres qui vont insister surtout sur la liberté, et ça va donner les jésuites, la spiritualité un peu jésuite, la spiritualité de la laïcisation, De la grâce, on va regarder uniquement que c'est uniquement le point de vue humain. Il faut aimer, il faut faire des efforts, il faut être copain avec son, etc. Il faut s'adapter. Et là, c'est ni l'un ni l'autre. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la sainteté de Dieu vient précisément du caractère substantiel de la grâce. Et il y a trois choses qui subsistent, qui sont substantielles en Dieu. Il y a trois subsistances qui viennent précisément de la grâce, puisque la grâce, c'est la vie éternelle. La vie éternelle fait subsister, première subsistance, la très sainte Trinité, dans l'unité. Les trois personnes subsistent dans un seul Dieu. Oui, ça va jusque-là, la grâce, du point de vue de l'unité. La grâce fait l'unité. C'est le premier effet de la grâce. La grâce, c'est l'unité. La grâce m'unit. Et regardez comment fait la grâce. Elle unit tellement le Père, la vie éternelle unit tellement le Père, dans l'amour, au Fils, en constituant et inspirant l'Esprit Saint, qu'il y a une seule subsistance divine. Il y a un seul Dieu. La deuxième subsistance, c'est l'incarnation. C'est que Dieu se fait homme, et que la nature humaine et la nature divine de Jésus subsistent dans un seul être, dans une seule personne. Vous voyez comment la grâce fait l'unité. En Dieu, elle fait une unité tellement forte qu'il y a à la fois trois et une personne, et qu'il y a pour la Trinité, et que pour Jésus, il y a l'unité absolue de Dieu et de l'homme dans une seule personne. Et il va y avoir une troisième subsistance, c'est justement celle dont parle le Saint-Père maintenant, ouais, troisième étage, le Christ est saint, Dieu est saint, il sanctifie l'Église, et l'Église demeure sainte. Alors, ça s'appelle la subsistance mystique, c'est ce qu'on dit toujours, le corps, l'Église, c'est le corps mystique du Christ. Et c'est la grâce sanctifiante qui fait que je suis substantiellement un seul corps avec le corps du Christ. Lui, la tête, nous, les membres. Vous voyez, c'est pas l'amour, c'est pas la charité qui fait l'unité entre nous et la tête, c'est-à-dire le Christ, dans un seul corps mystique. C'est la grâce. Ce n'est pas la foi non plus, ni l'espérance. Que l'espérance, c'est pour appeler la grâce, c'est pour faire confiance et pour rejoindre la grâce. La foi, c'est pour utiliser la grâce, et la charité, c'est pour envelopper la grâce et la faire croître. Et c'est la grâce qui fait que physiquement, substantiellement, entre Jésus et moi, il y a un seul corps, une seule chair, glorieuse. Donc par la grâce que Jésus communique à partir du moment où il est crucifié, que son cœur est ouvert et que sort l'eau, le sang et l'Esprit Saint, et c'est seulement à ce moment-là qu'il communique la grâce sanctifiante. C'est pour ça qu'au moment du baptême, le baptême fait beaucoup de choses, il enlève le péché originel, il met la présence de la très sainte Trinité dans notre âme, on est tout à fait d'accord, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il nous incorpore dans la mort et la résurrection du Christ. Or, la mort et la résurrection du Christ sont unies dans l'ouverture du cœur. Puisque dans l'ouverture du cœur, le corps de Jésus est mort et son âme est ressuscitée. Son âme est en dehors et elle vit la résurrection. Donc, pour être incorporé avec le corps de Jésus, je suis incorporé dans l'expérience réelle de mort au niveau du corps et de résurrection au niveau de l'âme. Par le baptême. Le baptême fait que je suis incorporé. C'est une incorporation dans la mort et la résurrection de Jésus. Donc vous voyez, autre manière de regarder la grâce au point de vue méditation, contemplation, c'est que simplement vous rejoignez votre sainteté à partir du moment où vous pénétrez, vous pouvez d'ailleurs vous aider de l'imagination pour ça, vous faites comme l'Immaculé qui pénètre dans le cœur ouvert de Jésus. S'installe au centre de son cœur divin et se laisse complètement bouleverser, pulvériser par l'amour infini de Jésus, du Verbe de Dieu. Ou alors vous pouvez vivre de la résurrection en pénétrant dans l'âme du Christ qui est partout présent sous mode de victoire. Et de manière, alors quand en vous, vous rejoignez ce lieu où Jésus est dans la résurrection, ou alors dans ce lieu où Jésus, dans son amour infini, mais totalement passif, complètement dans la passion, il pâtit complètement, le cadavre est totalement immobile, c'est un amour totalement passif, complètement implosé, rassemblé, concentré dans l'infini de l'amour du Père. Et pour ça, il faut pénétrer dans le cœur ouvert de Jésus, pénétrer, vous installer dedans. Et puis c'est bon. Et c'est là, or ceci est réellement présent, aussi réellement présent que le Saint-Sacrement ici, au milieu du cœur, puisque c'est un sacrement, le baptême. Et tous les sacrements impliquent présence réelle. Donc nous cheminons avec la présence réelle de notre incorporation dans le cœur ouvert du Christ qui nous permet de rejoindre l'âme glorieuse et ressuscitée du Christ. Donc de vivre à la fois de la mort et de la résurrection. C'est une présence réelle. C'est pour ça que quand vous rencontrez un chrétien, vous pourriez, vous devriez faire une génuflexion. Tout simplement. Exactement dans le sacrement de mariage aussi, très très beau, ça, sacrement de mariage. Présence réelle. À quel moment est-ce qu'il y a présence réelle dans le sacrement de mariage? Eh bien, après le sacrement, bien sûr, après le mariage. Eh bien, c'est à partir du moment où il y a communion des personnes, actuellement, physiquement. À ce moment-là, il y a présence réelle. Présence réelle de quoi? d'autres choses. Vous voyez, c'est des modalités différentes de la présence réelle, substantielle. Et à chaque fois qu'il y a une union conjugale dans le mariage, que par la chair, lorsque les deux corps se rejoignent, et que dans l'amour, les deux âmes font une seule âme, pas besoin d'ailleurs que les actes soient complets, c'est pas nécessaire, il suffit simplement qu'il y ait un contact de chair à chair, une simple étreinte, et il y a, au lieu même de l'étreinte, s'il y a communication, communion des personnes, où l'âme de l'un passe dans l'âme de l'autre et réciproquement, quand c'est comme ça, il y a présence réelle du Christ. Qui s'infiltre dans son Église. Qui irradie toute sa gloire dont il vit actuellement, corporellement, dans tous ses membres. Et ça, c'est la responsabilité des gens du mariage. C'est que s'ils vivent ça, le Christ peut pénétrer davantage dans le corps, la chair et l'âme de tous les baptisés qui sont sur la surface de l'univers. Vous voyez, à chaque fois que quelqu'un vit le sacrement de mariage, c'est pour ça d'ailleurs que l'homme ne doit pas se refuser à sa femme et la femme ne doit pas se refuser à son mari. C'est un péché. C'est un péché. Par omission, parce qu'en le refusant, c'est tous les baptisés qui reçoivent une grâce de moi. Donc ne disons pas que le mariage, on ne peut pas atteindre la sainteté. Oui. Ça, c'est sûr. C'est le Christ et l'Église. À chaque fois qu'il y a un sacrement, la grâce sanctifie chaque être qui est baptisé, mais surabonde. Vous voyez, c'est la pureté et le débordement dans la fécondité universelle qui font la sainteté. C'est ce que je disais au départ. Donc, le sacrement me baptise, bon, très bien, ça me rend pur, il me purifie, il fait que je suis parfait, puisque Dieu est parfait, et il n'y a pas un brin de la très sainte Trinité qui soit absent de mon corps et de mon âme le jour de mon baptême, et tant que je garde l'état de grâce sanctifiant, que je peux perdre par péché mortel, que je retrouve par le sacrement de pénitence. Vous voyez, dans le sacrement de mariage, comme c'est simple, il suffit simplement donc que je constate qu'au moment où je touche mon épouse, je peux dire « Ceci est mon sang. » C'est ce que je disais à quelques-uns d'entre vous, ça, tout à l'heure, avant-hier, je crois. La femme, quand elle reçoit son mari, elle peut dire, puisque tous les sacrements se réfèrent à l'Eucharistie, elle peut dire « Ceci est mon corps. » Ceci est mon corps, en touchant et en s'incorporant le corps de son mari et l'âme et le cœur de son mari, elle peut dire, elle doit dire, c'est un péché, c'est le fait pas. Ceci est mon corps. Exactement comme moi, comme quand je fais la consécration eucharistique, si ceci est mon corps, je ne le pensais pas, tu vois. Ce serait complètement fou, puisque je fais un sacrement. Je suis ministre du sacrement. Dans le mariage, le ministre, c'est l'époux et l'épouse. Donc, l'épouse dit « Ceci est mon corps ». Elle doit dire ça, vous voyez, c'est « Ceci est mon corps ». Attention, quand elle dit « Ceci est mon corps », elle le dit au nom du Christ. Bien sûr.
Oh. Alors là, je pense que la matière du sacerdoce, c'est aussi le Saint-Crème. Ah ouais, c'est le Saint-Crème. Ah ben non, c'est... Il faut... Non, c'est le Saint-Crème. À la messe chrismale. Oui, quand je dis à Pâques, c'est au moment de Pâques. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore comme sacrement? Je ne sais plus. Ça y est, on l'a dit, il faut de l'huile, oleum infirmorum, de l'huile qui est spécialement bénie par l'évêque au moment de Pâques. Voilà, matière et forme. Dès que quelqu'un est malade, il peut demander le sacrement des malades. La dernière fois que j'ai donné le sacrement des malades, c'est une maman qui m'a amené son fils qui avait de l'eczéma depuis il avait 10 ans, 11 ans, de l'eczéma qui lui rongeait Alors je vais donner à c'est Madame Oisier là. C'est Marie-Hélène. Okay. Alors elle dit ça fait des années que ça dure. Et ben, je dis mais j'ai proposé. Je lui dis ben, je vais y mettre. L'enfant n'est pas baptisé en plus. Je ne sais pas si j'avais le droit. Mais enfin, j'ai quand même donné ça comme les malades.
La grâce sanctifiante, la grâce actuelle. Et tous les sacrements sont comme ça. C'est vachement bien foutu l'église. Hein. Je peux vous dire que Jésus, il a bien pensé son machin. Hein. Et c'est par ce moyen-là, si vous voulez, que nous sommes incorporés avec le Christ et qu'il y a une seule vie. Le Christ seul est saint. Mais comme nous avons la grâce sanctifiante, nous sommes saints. Quel est donc le troisième aspect de ce que dit Saint-Père ici ? Mais la sainteté effective de ses membres n'est jamais achevée. Oui. Alors le jansénisme consistait à dire, vous voyez le jansénisme qui disait, qui appuyait sur le point de vue de l'entitatif, la grâce est un phénomène entitatif, ne visait pas ça du tout. Tu es un saint ou pas ? Point final. Oui. Tu es un saint ou pas ? Et ça s'est traduit dans nos manières de parler, dans les sermons que nous avions il y a 40 ans, il y a 30 ans, petit à petit. Qui disait, au fond, il faut rester en état de grâce. Vous voyez, prenez le commandement du Père. Le commandement du Père, c'est vie éternelle. Donc, on traduisait, il faut rester en état de grâce, sanctifiant, pas faire de péché mortel, si on en a fait vite, on se confesse. Et toute la vie chrétienne, c'était ça. Il fallait dire, c'est pas faux, remarquez bien, il faut rester en état de grâce. Rester en état de grâce. Mais il n'y avait que ça. Rester en état de grâce, point de vue entitatif. Point de vue entitatif. On oublie complètement le point de vue de la qualité, vous voyez, le point de vue que ce n'est pas du tout achevé. En réalité, la vie chrétienne ne consiste pas à rester en état de grâce. La parabole des talents le montre bien. La vie chrétienne consiste à faire que cette grâce s'intensifie, augmente, croît. C'est une vie. Donc la vie augmente, croît, toujours. Il y a une croissance. Donc c'est de faire en sorte que pas un seul instant de notre vie n'échappe sans que la grâce augmente, c'est ce qu'a fait la Sainte Vierge. Elle était dans la plénitude de grâce. Et pourtant, cette plénitude de grâce n'a pas cessé d'augmenter. La plénitude de grâce, ça veut dire qu'elle avait suffisamment de grâce dès la conception pour que ça se communique dans l'ordre du salut et de la sainteté à tous les êtres humains sans exception, prévu dans la sagesse de Dieu. Vous voyez ça ? Eh bien, cette plénitude de grâce n'a pas cessé d'augmenter jusqu'à la fin de son pèlerinage terrestre. Elle n'a pas laissé échapper à un moment. Alors je raconte souvent l'histoire d'une de mes premières confessions du prêtre. C'est vraiment extraordinaire. Une semaine après mon ordination, j'étais à Rimont, il y avait une vingtaine de frères de Saint-Jean qui étaient ordonnés. Moi j'avais été ordonné tout seul une semaine avant. On avait dit super pour le café. C'était le cardinal Amer, alors c'était un cardinal préfet de la congrégation des religieux, membre de la curie romaine, numéro 2, c'est pas après le secrétaire d'État du Vatican. Enfin, il fallait cacher les mauvais sujets. Alors donc j'ai été ordonné une semaine avant par Mgr Segui, qui est maintenant évêque d'Autun, et était évêque de Gap. Et donc, des jeunes viennent, et puis se confessent, moi je suis dans la prairie, se confessent là. Un groupe de jeunes arrive, bon, je sais pas, 18 ans, 17, 18 ans, hein. 5, 6, bon, dans la file indienne, hein, c'était... Et puis, alors, il y avait une petite brune, alors, très bien, je donne l'absolution pour ses péchés, ça, un autre, un troisième. Et puis arrive une espèce de petite joufflue, bien sympa, enfin bien. Mais jolie, pas du tout moche, hein. Très très jolie. Pas grosse, hein, attention. Mais tiens, les cheveux roux,
des cheveux roux, un peu roux. Non, mais vous inquiétez pas, vous allez voir. Des cheveux roux, comme ça. Un peu dans tous les sens, habillé, bon, bizarrement. Hein? Elle se met à genoux. Vas-y, bon, le Seigneur soit dans ton cœur, sur tes lèvres, tu puisses confesser humblement, courageusement tous tes péchés. Alors, puis elle pleure, elle commence à pleurer, elle n'arrivait pas à avouer son affaire. Elle n'y a pas du tout, c'est trop dur pour elle. C'est vrai, c'est pas commode d'avouer cette affaire. Donc, moi, je plein de fougue, de ferveur, de zèle pour l'aider dans sa détresse. Je pose des questions. Je pose des questions. Est-ce que tu n'aurais pas fait ceci, cela, ça? Ah, non. Alors, je sais pas, j'essaie de fouiller quand même. Est-ce que c'est pas ça, ça? Mais à posteriori, j'ai eu évidemment très honte des questions que je pose. Et alors, bon, et puis, quand même, si ma femme t'a reçu, qu'est-ce qui t'arrive? Elle pleurait vraiment comme une fontaine, hein, je vous assure, c'était vraiment impressionnant. Elle avait vraiment une contrition impressionnante. Et, je dis, quand même, t'as reçu des grâces. À ce moment-là, ça coulait comme ça. Ça commençait à gicler sur moi. C'était fou, quand même, c'était comme deux jets d'eau, vraiment, c'était extraordinaire. C'est pas possible. Elle dit oui, c'est là qu'elle a commencé à dire à Jémy en disant oui, j'ai reçu des grâces. Bon, ah, ça y est, elle a parlé. Oui, hein, c'est bon. Elle dit je sais pas, enfin, dis quoi. Vite ton sac. Puis j'ai su ton repas, quoi. Est-ce que tu résistes à la volonté de Dieu? Tu résistes à la volonté de Dieu, je suis dit, je sais pas. Elle dit, non. Bon. Alors, elle s'est mise, et puis elle commence à dire, alors, en pleurant vraiment beaucoup, j'ai laissé échapper un moment de prière. Et alors, ce qu'il y a de marrant, c'est qu'après, dans la prairie, ils étaient ensemble, moi je les avais vus ensemble, je les avais repérés, ils étaient ensemble tous ce petit groupe. Alors, à ce moment-là, le prêtre a quand même des grâces, de toute façon, parce qu'il vient pour répondre. Enfin, alors, je lui ai dit, ah, ça, c'est pas bien. Non.
De nouveau, là.
Ah, ça, c'est pas bien. Ah, j'étais pas content, je suis. Pas comme je dis maintenant, je vous assure que quand je l'avais dit, c'était puissant.
C'est
sûr,
hein.
C'était pas du cinéma, je te jure.
Non, c'est toi qui fais du cinéma. Mais pour nous raconter ça, c'était.
Alors après dans la prairie, après. Parce que ce que j'ai trouvé très curieux, c'est qu'après, je me suis dit, j'étais tellement impressionné par ça. Et après, j'ai essayé de repérer le groupe, c'est resté quand même pendant 4 heures, cette histoire. Et il était plus disparu. Voilà. Je me pose des questions, je me suis dit, c'est peut-être Sainte-Thérèse. Peut-être Thérèse. Une nouvelle Thérèse, en tout cas. Oui, ça fait réfléchir, ça. Donc, la sainteté, c'est faire que la grâce ne cesse pas. Ne cesse pas d'augmenter. Parce que vous comprenez bien que le fait que nous ayons la grâce sanctifiante dans notre âme, ça vient de notre baptême, ça vient des sacrements, si vous voulez. Mais le fait qu'elle augmente, j'allais dire, ça vient de notre sainteté. Ça vient pas de notre volonté, ça vient pas de notre liberté, ça vient de notre sainteté. Notre sainteté consiste à faire que sans arrêt, la grâce augmente. Alors donc, toute la question, ça va être de savoir comment je vais faire en sorte que la grâce augmente incessamment dans mon âme. Et toute la question de la sainteté, c'est ça. Vous voyez comme il a fallu faire des préalables. toute la question de la sainteté, là. C'est toute la question. Comment ? Parce que les gens te disent, tiens, comment faire pour ne pas perdre l'état de grâce provisoire ? Point final. Donc il suffit que tu ne fasses pas le péché mortel ici. Si tu voles plus, une valeur plus de 100 francs, c'est un péché mortel. Donc bon, ben, ça va, c'est un péché venu, c'est bon. Tu gardes ta prédestination, etc. Tu vois, c'était tout simple. C'est pour ça que les chrétiens étaient tièdes, si vous voulez. Parce qu'on a une période de jansénisme qui a duré 2 siècles, hein, en France. Hein. En France, on est imbibé de jansénisme. Hein. Pas nous, mais nos parents. C'est que la grâce sanctifiante augmente dans notre âme. L'équivalent protestant, c'est Calvin. Prédestination. Prédestination, c'est pas du tout ça. On est prédestiné, oui, mais c'est pas du tout. Ça va pas du tout dire ça. Parce qu'on est libre. Alors, je sais pas, il nous reste combien de temps? Parce que je veux pas m'engager dans un truc qui avorterait tout d'un coup. Bon, alors comment faire pour la grâce sanctifiante qui augmente dans notre âme, voyez? La grâce sanctifiante est donc un habitus, donc c'est un accident. Et puisque c'est un accident, c'est quelque chose de limité, quelque chose de créé en nous. Donc limité, tout ce qui est créé est limité. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça peut augmenter. Ça peut s'intensifier en extension, en intensité et en substance. Oui. Alors, ça, nous l'avons. Donc, nous avons, à travers la grâce sanctifiante, le paradis. La grâce sanctifiante, c'est un peu comme le paradis, où la très sainte Trinité est là. Le paradis tout entier est présent dans notre chair, dans notre âme, dans notre cœur. À travers, si vous voulez repérer le lieu, à travers le caractère, là où le caractère du baptême s'est imprimé. Essayez de discerner où s'est imprimé le caractère du baptême. Et maintenant, pour que cette grâce sanctifiante augmente, il faut que Dieu, en personne, soit envoyé dans notre âme. Exactement ce qui s'est passé, parce que vous voyez, c'est l'aspect numéro 2, le Christ nous sanctifie. C'est l'incarnation qui nous sanctifie. Et l'incarnation, c'est ce qui s'est passé dans l'âme de Marie, à l'Immaculée, quand, ayant dit Fiat, sous l'opération de l'Esprit Saint, le Père, du coup, a envoyé son Fils. On appelle ça une mission invisible des personnes divines. Il a envoyé invisiblement la personne du Verbe de Dieu, du Fils, qui a pénétré dans l'âme de l'Immaculée pour augmenter, je dirais, la grâce sanctifiante dans son âme, de manière que le Christ, et par ce moyen-là, il y a eu l'incarnation, bien sûr, mais ça a augmenté la grâce sanctifiante de Marie. Donc à chaque fois que la grâce sanctifiante augmente dans mon âme, ça ne peut pas se faire sans que le Père lui-même ait envoyé ou le Fils, le Verbe, dans notre âme, donc, ou l'Esprit Saint, puisque ce sont les deux seules personnes qui sont envoyées. Le Fils est envoyé pour s'incarner. Et l'Esprit Saint nous est envoyé pour nous glorifier. C'est pour ça qu'à la salette, vous avez la tenaille et le marteau sur la croix. Christ s'enfonce en nous. Et l'Esprit Saint nous arrache au monde. En tout cas, il faut que une des deux personnes soit envoyée, ou les deux. Alors comment faire pour que... Alors, vous voyez ce que ça veut dire. Donc il se passe ni plus ni moins, à chaque augmentation de la grâce dans notre âme, que ce qui s'est passé en Marie à l'incarnation. C'est pas plus et c'est pas moins non plus. Donc, vous voyez, c'est quand même fou. Nous revivons l'Angélus. À chaque fois que vous faites un Angélus, hein, augmentation de la grâce sanctifiée dans votre âme. Hein. Parce que le Christ est vraiment envoyé si vous le faites avec le maximum de votre ferveur. Dès que vous mettez un maximum de ferveur, le maximum, vous voyez, où vous essayez au maximum de vous assimiler à ce que Marie a vécu, quand l'ange Gabriel lui est apparu, l'Esprit Saint obombrera et surviendra ton âme. Et elle dit oui. Que c'est la volonté de Dieu qui se fasse et le fait, c'est déjà. Si vous êtes avec un maximum de ferveur, le Père enverra le Fils. Et cette nouvelle incarnation, ce sera l'augmentation de la grâce sanctifiante dans votre âme. Ce sera une nouvelle incarnation, puisque c'est une nouvelle création, puisque la grâce est créée. Alors comment faire? Comment faire? Comment faire? Et c'est là que vous voyez que bon Dieu est grand, parce qu'il déplace lui-même. C'est pour ça que la vertu d'obéissance, c'est divin. La vertu d'obéissance, c'est divin. Dieu nous obéit au doigt et à l'œil. Tac. Et à l'instant même, l'obéissance est prompte avec Dieu. Dieu est obéissant. Champion. Alors, il suffit que je me mette dans cet état. Je fais un acte de charité au maximum de mes forces, pas qu'il obéit. Et à chaque fois que mon pauvre prêtre, même si c'est un salopard, si ceci est mon corps, envoie des vers de Dieu, transsubstantiel. Il obéit immédiatement, même si les doigts sont incliniers là. Alors, un pécheur immonde arrive à la confession, il obéit immédiatement, avec ferveur, justement. Il demande que ça, Jésus. Il demande que ça. C'est vraiment l'obéissance. C'est là qu'on voit que l'obéissance n'est pas du tout la vertu des esclaves. Contrairement à ce que on veut bien nous faire croire. C'est la vertu des rois. C'est la vertu de Dieu. C'est pour ça que, vous voyez, la révolte, c'est pas toujours divin, contre l'autorité, contre le... L'obéissance est toujours divin. En tout cas, une fois qu'on a mis en obéissance de Dieu, comment est-ce qu'on va faire pour que, bon, la grâce augmente dans notre âme. À chaque fois que vous communiez, il y a l'augmentation de la grâce sanctifiante dans votre âme. À chaque fois que vous allez vous confesser, et vous avez perdu, supposons que vous avez fait une faute très grave, vous avez donc perdu la grâce sanctifiante. Et donc vous avez coupé la corde qui vous relie au corps mystique du Christ et qui fait que vous n'êtes plus le membre du corps mystique du Christ. Donc vous allez recevoir l'absolution, ou bien là vous faites un acte de charité parfait. Mais seulement, c'est pas si commode tout ça peut-être, enfin, ça peut vous arriver. Dieu peut envoyer son Esprit Saint pour vous permettre de faire un acte de charité parfait, de manière que vous retrouvez l'état de grâce. Point. Bon. Sinon, comme habituellement, on n'y arrive pas si facilement que ça, et Dieu envoie son Esprit Saint seulement quand il veut. Alors, sacrement de pénitence. Quand vous allez au sacrement de pénitence, non seulement vous retrouvez la grâce sanctifiante au degré de profondeur, d'intensité, auquel il était lorsque vous l'avez perdu, vous ne revenez pas à zéro du tout, mais en plus, encore augmenté. Exactement comme vous avez coupé la corde, on reprend la corde, on fait un nœud, c'est bien que vous êtes encore plus proche. C'est quand même génial la miséricorde de Dieu. Pas hésiter, hein, la grâce, c'est plutôt du côté de la miséricorde, hein, que de la justice. C'est pour ça que Saint-Thérèse de l'Enfant Jésus disait que je regrette de ne pas être pécheresse. Je pourrais, ne vivre que de la miséricorde. l'idée est pas mal, mais par un autre moyen. Vous voyez, donc à chaque fois que vous vous confessez, augmentation de la grâce. Si vous n'avez pas perdu la grâce sanctifiante parce que vous avez fait des petits trucs, pas méchants, pas volontaires, tout ça, très bien, la grâce sanctifiante augmente, bien sûr. À chaque fois que vous actualisez le baptême, en faisant un acte de foi, vous utilisez le sacrement de baptême, parce que le sacrement de baptême vous permet de poser trois actes divins. L'acte de foi, l'acte d'espérance, l'acte de charité. Ça, vous pouvez le faire quand vous voulez. L'acte de testament, il faut savoir ce que c'est qu'un acte de foi. Il faut savoir ce que c'est qu'un acte d'espérance, il faut savoir ce que c'est qu'un acte de charité. Donc, mais, vous voyez, vous faites un acte de foi, tout ce qui convient, c'est de faire que cet acte de foi soit fait avec le maximum d'intensité. À ce moment-là, augmentation de la grâce. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans les catéchismes ou je ne sais pas quoi, mais c'est la différence qu'on fait entre les actes congrus et les actes méritoires. Les actes, vous voyez, les actes de congruo, de condigno, comme on dit en latin. Vous avez peut-être entendu quelques-uns parler de ça. De congruo, c'est-à-dire, bon, moi je continue à croire, ouais, Seigneur, je crois, merci Seigneur. Mais j'y mets pas toute ma ferveur. Et des condigno, c'est au contraire que vous mettez le maximum, c'est-à-dire vous mettez le lieu où vous êtes conjoint au Christ, c'est-à-dire au sommet. Vous voyez? Donc, vous mettez toutes vos billes, je dirais. À ce moment-là, l'augmentation de la grâce est immédiate. C'est nouille, hein? Donc, l'Immaculé n'a pas laissé échapper un seul instant dans sa vie sans qu'il y ait augmentation de la grâce. C'est fou. Et nous, c'est pareil, parce que si vous regardez bien, nous, c'est pareil, on doit faire pareil. Ce que dit Mère Thérèse, c'est pas du tout facultatif. Hein. C'est pas facultatif. La sainteté n'est pas facultative, c'est pas pour un ou deux. C'est un commandement. Soyez parfait. Comme votre Père Céleste est parfait. C'est un commandement. Nul ne sera sauvé, nul ne pénétrera au ciel s'il n'a pas atteint la perfection du Père. Et si on n'a pas atteint, ben, j'allais dire, il faudra passer par la purification correspondante. Si on n'a malheureusement pas atteint, j'allais dire, dans cette vie terrestre, on va l'atteindre sans mérite, justement, sans aucun mérite. Ce qu'on appelle le lieu de la purification. C'est dommage. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il y en a pas mal qui risquent de passer, évidemment. Dans le lieu de la purification. C'est une purification d'amour, c'est-à-dire il faut voir que l'amour purifie. L'amour brûle, l'amour brûle pendant un certain temps. De manière qu'on atteigne la perfection. Père, et là, vous voyez ça. Vous comprenez que si à la fin de votre vie, vous atteignez cet habitus, justement, par lequel la grâce, à chaque moment, ne cesse d'augmenter, vous allez au ciel directement. Voilà, c'est tout simple. Donc on s'entraîne. Là, bon, allez, je le fais augmenter deux fois par jour, ouais. Bon, demain, trois fois par jour. Ah, ce serait très bien de faire un peu de ça. Oui, faites le compte, c'est ça. Comme, demain, après-demain, quatre fois par jour. Hein. Et à la fin, ce sera tout le temps. C'est concentré. Là. C'est bizarre. C'est un pèlerinage. Un pèlerinage, c'est ça. Hein. Un pèlerinage, c'est ça. Le passage sur la dette, un pèlerinage. C'est la rampe de lancement. Alors, on démarre lentement, et toute vitesse, on peut voler, c'est bon. Ouais. On augmente un kilomètre heure chaque année. Sérieux, la fréquence de l'augmentation de la grâce dans notre âme. Alors, par quel moyen? Mais en faisant des actes de foi. Je veux croire.
croire, c'est vouloir croire. Croire, c'est pas bien, j'ai la foi, je n'ai pas la foi. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est une bêtise? J'ai pas la foi. J'ai le caractère du baptême. Alors, croire, c'est choisir de croire. Choisir de poser un acte de foi, c'est vouloir croire. Je donne toute mon intelligence pour pénétrer dans la lumière du Verbe et la sagesse et la révélation du Christ. Je donne toute mon intelligence pour être noué dans toute la vérité qui fait toute la structure intérieure du Christ. Il est le Verbe, la lumière, né de la lumière, la vérité. Vouloir croire. Oh, je suis désespéré, j'ai pas d'espérance. J'ai pas d'espérance. Quelqu'un qui n'a pas d'espérance, désespéré, je n'y arriverai jamais. Je suis froid comme un glaçon. Je suis nul, etc. Mais non, tu as le caractère du baptême, pas du tout. Donc, regarde. C'est nul, ça. Bon. Oh, quand même. Alors, mais non, le paradis est là. Ah, c'est merveilleux. Le ciel est déjà là. L'espérance est une ancre. Dans les graffitis des catacombes, on voit les ancres. Les ancres de bateau, les ancres de marins. Pour montrer que l'espérance fait que le bateau, c'est-à-dire nous, est déjà au port. Le port, c'est le ciel. L'ancre, l'espérance est intérieure. Intérieurement, nous sommes déjà au ciel. C'est ça l'espérance. L'espérance, nous savons que nous sommes déjà au ciel. Parce que c'est vrai. Alors, une confiance absolue, à ce moment-là. Je me fixe dans le ciel. Là où je suis. Je reviens à la réalité. Parce que le désespoir, c'est psychologique, c'est pas la réalité. C'est l'imagination. L'imagination, quand vous rêvez, c'est pas la réalité. Vous êtes dans une détresse psychologique complètement névrosée, psychotique, etc. Une feuille morte tombe à côté de vous en faisant un bruit. Ah, un serpent. Mais non, c'est une feuille morte. C'est pas un serpent. Oui, point de vue psychologique. Il nous trompe. C'est pas la réalité, point de vue psychologique. Et du point de vue psychologique, on dit je désespère, je suis dans l'angoisse, j'y arriverai jamais. C'est pas la réalité, il faut revenir à la réalité. La réalité, c'est que je suis au paradis. J'ai la grâce dans le différent. Une confiance totale. Que cette grâce se déploie dans mon âme, partant. Et que je suis déjà au ciel. Donc je fais des actes d'espérance, à chaque fois que je fais un acte d'espérance, augmentation de la grâce. Si je le fais toute ma foi, j'ai une totale confiance qu'en ce moment tu me donnes ta grâce, tu m'accommodes densément. Et à chaque fois que vous faites un acte d'espérance, bien sûr, ça rejaillit sur tous les baptisés de la terre. Oui. Pour le péché, c'est pareil, remarquez bien, chaque fois qu'un chrétien fait un péché, ça rejaillit sur tous les hommes. Tous les hommes. C'est le péché d'impureté, vous voyez, ça se paye par le sang des martyrs. En Arménie, au Liban.
C'est un acte de foi d'espérance, ça revient sur les baptisés. Pour le péché, sur les hommes.
Pour le péché, ça revient, oui. Parce que le péché, c'est de l'eau des hommes, et la grâce sanctifiante, c'est le vent. Et à chaque fois que je pose un acte de charité, augmentation de la grâce sanctifiante dans mon âme. Si vous voulez être sûr que
qu'il y a eu une mission invisible, c'est-à-dire que Dieu le Père a vraiment envoyé complètement, définitivement, absolument, complètement, vous voyez, l'Esprit Saint dans notre âme, exactement comme il l'a envoyé dans l'âme de Marie au moment de l'ouverture du cœur, il est sorti l'eau, le sang et l'Esprit Saint, elle a reçu sa propre Pentecôte. La Pentecôte de Marie, c'est au pied de la croix. Il y a eu trois Pentecôtes. Hein. La Pentecôte apostolique, c'est très longtemps après. Marie a reçu la Pentecôte, l'Esprit Saint en personne, en plénitude, au moment où l'ouverture du cœur s'est faite. Ce mode de Pentecôte, vous voyez, si vous voulez recevoir cette même grâce, ni plus, ni moins, très important, ni plus, ni moins, voilà, à ce moment-là, si vous voulez être sûr que vous l'avez reçu, quand vous faites oraison, petit critère, c'est saint Thomas qui dit ça, si vous restez comme ça face au Seigneur, et que vous restez comme ça dans la ferveur, sans distraction, plus de 10 minutes, vous pouvez être certain que vous avez reçu une mission invisible du Saint-Esprit dans le temps. Parce que ça, vous avez reçu à ce moment-là ce qu'on appelle... Est-ce que je peux reprendre cette phrase ça? Si vous voulez avoir un critère absolument sûr que vous avez reçu l'Esprit Saint dans votre âme comme une mission invisible de Pentecôte, comme Marie au pied de la croix, saint Thomas qui dit que et quand vous faites oraison, quand vous êtes devant un tabernacle, quand vous êtes face à un crucifix, dans votre chambre, vous restez dans un état de ferveur intérieure, je parle, hein? Intérieure. Oui. La ferveur, c'est exactement comme quand l'eau bout, ça soulève le couvercle. Ça bout. Dans un état de ferveur, plus de 10 minutes, ça vous est arrivé quand même, ça. Oui. Il y a des moments où on est dans un état de ferveur, pas de distraction pendant une Eucharistie. Vous êtes là, suspendu. Bon, ça vous pouvez pas l'inventer. Hein. Et justement, vous, la grâce peut quand même augmenter dans votre âme si vous êtes justement dans un état de contraire, avec plein de distractions, plein de trucs, parce que vous faites à ce moment-là plein d'actes de foi. Des actes de foi, des actes de foi. Je veux croire, vous croyez. Vous dites, mais j'y crois pas. Je suis sûr que c'est faux. J'ai l'impression que c'est complètement idiot et tout ça. Alors justement, vous avez à ce moment-là, au contraire, l'occasion d'augmenter la grâce aussi. Vous n'êtes pas du tout, l'autre n'est pas gâté, vous êtes gâté autant. Vous pas rejeté pour autant, puisque la grâce peut augmenter encore plus, puisque vous pouvez faire poser, je ne sais pas, une centaine d'actes de foi. Et à chaque fois, si vous faites avec grande ferveur, on entend la grâce 100 fois l'entre. Pendant les 10 minutes où l'autre est là. Donc vous n'êtes pas, j'arrive pas à trouver le mot, défavorisé, vous n'êtes pas brimé, vous n'êtes pas brimé. Et d'ailleurs la grâce augmente plus à travers la croix qu'à travers le tabord. Le tabord, oui, bien sûr, Saint-Pierre suspendu, tiens, si on doit essayer trois temps, ce serait pas mal. Quand vous posez des actes de foi dans la réalité, la grâce augmente beaucoup plus vite. Donc il faut supplier le Seigneur de nous mettre dans la réalité. Seigneur, garde-moi dans la réalité la plus totale. Pour que la grâce puisse augmenter. Là, c'est un autre aspect qu'il faudra voir, c'est que la grâce est proportionnée aux croix. Ce que dit saint Thomas d'Aquin, une vie sans croix est un signe de quasi-réprobation éternelle. Et plus la sainteté est grande, plus la croix est profonde. C'est tous les saints qui disent ça. Saint Jean de la Croix, la nuit. Il faudra, on est en Espagne, donc il faudra regarder Saint Jean de la Croix. Il faudra absolument regarder Saint Jean de la Croix. C'est vraiment le saint d'Espagne. Donc c'est bien quand vous êtes devant le tabernacle ou devant le Saint-Sacrement exposé, puisqu'on le fera souvent, posez-vous devant le Saint-Sacrement. Jésus est là. Voyez, et exposez-vous. Oui. Ce n'est pas le Saint-Sacrement qu'on expose, c'est nous qui nous exposons au Saint-Sacrement. Pour que, de fait, à partir du Sacrement, qui est là, le Père envoie son Fils dans notre âme. Et donc j'ouvre grand les portes pour que, comme un rayon laser qui traverse l'espace et le temps, le Père envoie son Verbe de Dieu, son Fils bien-aimé, dans notre âme. Alors j'ouvre et je reçois courant d'amour, bord d'amour et de grâce lumineuse, amour. Je m'expose au soleil de l'amour, et je fais exactement comme ces fleurs qui se ferment le soir parce qu'il n'y a plus de soleil, et dès qu'on est devant Saint-Sacrement, la fleur s'ouvre au soleil de l'amour. Mais, vous allez dire, moi devant le Saint-Sacrement, là que je voulais en venir, et si je me mets dans le Saint-Sacrement, et ça y est, je commence à voir des trucs. Papa, mon Dieu, il est juste là, habituellement je m'entends bien avec elle, là je sais pas pourquoi, j'ai envie d'étrangler, de sauter dessus, elle m'a rien fait, je sais pas ce qu'il prend, c'est affolant, le truc, invraisemblable, ou alors des places devant le Saint-Sacrement. Des trucs invraisemblables, une tiédeur d'une moiteur infinie. Voilà, je suis si grasse. Voilà, habituellement, j'ai plein de pêche et tout, et puis la robe, ratatinée complètement. Ou alors, je sais pas, oui, ou alors des fantasmes invraisemblables. Alors à ce moment-là, ça, vous voyez, c'est la preuve, si c'est ça, que vous êtes en train de recevoir un des sept dons du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit purifie. Vous voyez, la grâce, elle augmente dans votre âme, elle est au centre de votre âme, la grâce, vous voyez. Situez bien où est la grâce. Au plus profond de votre âme. Et si elle augmente, en effet, parce que l'Esprit Saint est envoyé, elle augmente, vous comprenez? Elle augmente. Elle fait comme ça. Faites-moi un peu de place. Et elle pousse ce qui est en nous. Et du coup, ça sort. Donc c'est très bon signe. Jésus, le Père envoie son Fils. Et c'est le marteau. Il enfonce en nous pour que l'Esprit Saint sanctifie. Et du coup, on le vit psychologiquement très mal. Parce qu'on dit, mais je fous, je suis damné. Mais en même temps, c'était bien dans votre âme. Pas seulement du reste de vos propres péchés, en grande partie vos propres péchés, mais aussi ceux de l'atavisme et ceux, les conséquences des péchés des chrétiens du monde entier. Mais très faiblement, par participation, mais c'est surtout vos péchés et votre état intérieur qui ressort. La connaissance de soi, c'est excellent, et dans les uns d'esprit. Et sur les sept dons du Saint-Esprit, bon, vous pouvez recevoir, par exemple, l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse, c'est justement ce que je vous ai dit. Quand pendant 10 minutes, vous goûtez, vous savourez littéralement, d'une manière supra-humaine. Donc vous l'avez souvent expérimenté.
De manière que vous voyez bien que c'est pas humain. Pas du tout. Ça, on le sait bien. Saveur extraordinaire d'un amour infini qui vous, littéralement vous ravit. Un ravissement, un rapte. En plus d'une minute. Ça, c'est le don de sagesse. Le don de sagesse, c'est le seul qui purifie pas. Mais tous les autres dons, intelligence, science, conseil, crainte, force, piété, pure. Les autres apportent leur lumière, mais en même temps, ils purifient. Parce qu'en même temps que vous avez donc une purification, par exemple, au niveau des fantasmes, par exemple sexuels, supposés, hein, est-ce que j'aurais choisi dans ma tête le don d'intelligence, hein, quel est le truc correspondant? Je trouve que le truc correspondant, c'est les fantasmes d'impureté. T'aimerais les cœurs purs, ils le verront Dieu. Non, l'intelligence, c'est ça. T'aimerais les cœurs purs, ils le verront Dieu. La pureté du cœur. Plus l'amour est pur, plus le cœur est pur, plus il est amour. Plus il permet de voir celui qu'on aime en face. Dans toute sa profondeur. Et c'est pour ça que quand on est dans les fautes de la concupiscence charnelle, vous pouvez toujours essayer de vous mettre en contemplation. Vous n'y voyez rien dans les mystères intérieurs de Dieu. Vous y croyez, mais de là à avoir l'esprit d'intelligence, vous pouvez toujours courir. Alors, quand vous trouvez dans un sacrement, quel don d'intelligence. Et en même temps, le don d'intelligence apporte avec lui sa propre lumière. En même temps que vous avez ça, il y a une espèce de certitude de votre esprit, c'est-à-dire de votre perspicacité intérieure, qui grandit, et que vous sentez, et vous voyez. Vous voyez. Ça a l'air tordant. Vous voyez que il n'y a pas de doute. Vous voyez, quand vous faites l'expérience, vous verrez, quand vous avez des problèmes de fantasme devant un sacrement, vous n'avez pas de doute sur la foi. C'est la certitude. Au niveau de la foi, il y a une certitude. Vous voyez, si c'est vraiment une purification, il y a une espèce de certitude. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a d'autres moments où vous avez des doutes sur la foi. Ça, c'est l'esprit de science. L'esprit de science, j'allais dire, purifie nos idées sur Dieu, nos manières personnelles de voir sur Dieu, notre manière humaine créée de voir Dieu, purifie. Alors du coup, on doute, on a un état de doute invraisemblable. Mais tant que science apporte quand même avec lui son propre don, en même temps, vous êtes calme, comme la nature. Une espèce de calme. Et les sept dons du Saint-Esprit se vivent dans l'oraison. La vie chrétienne, finalement, si je comprends bien, consiste non pas à être, ne pas voler, ne pas faire tel péché, pas mentir. Mais elle consiste à vivre des sept dons du Saint-Esprit. Parce que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas le fait d'avoir la foi, oui, d'avoir la foi, ça y est, j'ai 1000 balles et je les garde. L'espérance et la charité, oui. Moi j'aime Dieu, c'est bon, ça me suffit. Mais c'est le fait de vivre des dons du Saint-Esprit, parce que c'est les dons du Saint-Esprit qui font que la grâce augmente dans mon âme. Et cette grâce augmente dans mon âme par purification. Donc la grâce est liée à la croix, immédiatement. C'est la sainteté, pardon, pas la grâce. La sainteté est liée à la croix. Puisque la sainteté, c'est faire que la grâce augmente. L'origine de l'humanité jusqu'à la fin du monde, en dehors de sa mère, personne.
Bien entendu que quand le prêtre dit la mère...
Et puis il a vu l'écriture, il connaît la vie, et il connaît ce que Dieu est. Et puis il a expérimenté. Donc il peut dire immédiatement l'égalité, c'est la plus grande sainte de tous les temps. Puisque la croix de la croix.
pas la même. Il y en a plein. 90% ne sont pas la même. Ah oui.
Il y a quelqu'un qui nous a préparé certainement quelque chose sur Sainte-Thérèse d'Avila. Et quand vous rentrez dans la septième demeure, la demeure est imparfaite. La deuxième caractéristique de cette demeure, c'est de Sainte-Thérèse d'Avila.
Et dans le mariage,
là, Dieu se plaît
à
préciser le misérable, là, qu'il est dans l'union.
C'est plus
de 75%. C'est pas drôle à lire comme ça, mais c'est génial, parce que c'est la grâce du martyr, c'est pour vous.
Ah, la réconciliation, c'est pareil.
Le vrai martyr,
c'est comme ça. La réconciliation, c'est comment la réconciliation se présente.
Parce que dans le martyr, qu'est-ce que c'est que la grâce du martyr? C'est pas qu'on vous torture, qu'on vous coupe la tête, parce que vous êtes chrétien. C'est pas ça le martyr. C'est ça, c'est le martyr. Mais la grâce du martyr. Donc, vous voyez, la sainteté du martyr. Donc quand on demande la grâce du martyr, on demande la sainteté du martyr. On ne demande pas le fait de mourir. On demande de recevoir la grâce du martyr. C'est-à-dire le fait, si jamais on est un jour on doit mourir martyr, que ce soit d'une manière sainte. Donc que ça produise l'augmentation, une augmentation, j'allais dire, spectaculaire de la grâce dans mon âme. C'est ça. Et là, au moment donc où on met corps suivant, comme Saint-Barthélemy, comme d'autres, bon, et à ce moment-là, la grâce, l'esprit de force, du Saint-Esprit qui m'est envoyé, fait que, bien sûr, je sens parfaitement la douleur. Mais l'amour, l'amour extraordinaire, je sens physique. L'amour de Jésus dans mon corps. C'est au moment du martyr, vous avez qu'à demander à tous ceux qui ont subi des tortures, jamais été si heureux qu'en ce moment. Au moment où on était en train de. Jamais. C'est pas du masochisme, vous comprenez? Parce que le masochisme, c'est trouver du plaisir dans la douleur. Et là, on ne trouve pas du plaisir dans la douleur, au contraire. Avec la crise. C'est l'amour de Jésus qui devient sensible et qui est plus fort que la mort, beaucoup plus fort. Donc on éprouve davantage, bien davantage l'amour de Jésus que la douleur. Ça, ça s'appelle la grâce du martyr. Celui qui ne demande pas la grâce du martyr, eh ben on lui coupe la tête et puis c'est tout. Comme si on torturait un communiste parce qu'il est communiste, et puis c'est tout. Ben, il mourra parce qu'il est chrétien, et puis c'est tout. Mais il n'aura pas eu la grâce du martyr. La grâce du martyr, c'est de faire que ce ne soit pas moi, que ce soit Immolé, que ce soit l'agneau, que ce soit
l'agneau.
Donc vous voyez, tous les dons purifient. Le don de force, c'est ça. Le don de force, c'est ce don. Tu en aurais persécuté pour l'amour pur, pour le pur amour, pour la justice. Donc c'est pur amour, la justice. C'est Saint-Thérèse de Lisieux disait que le pur amour, du moins la justice, c'était la justesse de l'amour. La justice de Dieu. La colère. C'est la justesse. Un amour bien. Bien heureux les persécutés pour la justice. On n'a pas faim de quoi que ce soit d'autre. On est martyrisé si on a la grâce du martyr. C'est pour ça qu'il faut demander la grâce du martyr tous les jours. Bien sûr. Surtout pour les gens qui sont peureux. Les gens qui sont peureux doivent demander la grâce du martyr. Bien sûr. Ceux qui sont courageux, vous ne pouvez pas la demander. Il y a plusieurs martyrs. Hein. Il y a le martyr sanglant et le martyr non sanglant. Le martyr non sanglant, c'est la vie religieuse. C'est la consécration à Dieu. Hein? C'est dit. Oui, la vie religieuse, c'est un martyr non sanglant. Mais tu vois, on est rassasié d'abord. C'est-à-dire on n'a pas faim d'autre chose. On ne veut pas autre chose. On est tellement arraché au monde qu'on n'en veut pas. Ah oui, la religieuse, c'est un martyr. Bien sûr. Mais elle est recluse sur Nazaré là-bas, hein, dont on a parlé. Daniel, c'est ça. Et en prison, en muret. Un martyr, mais non sanglant. C'est un martyr d'amour. Les religieux sont arrachés du monde. Oui, mais... Ah oui, non, ils sont arrachés du monde, les religieux, les contemplatifs, les moines, les moines dans leur couvent. Parce que, hein, dans ce sens... Non, dans ce sens qu'ils ont fait le vœu de quitter le monde. Même s'ils sont dans le monde, ils ont quitté le monde. C'est intérieur, hein, les religieux. La consécration, c'est quelque chose d'intérieur. Ah, mais bien sûr. Ah mais bien sûr, la consécration à Dieu, c'est pour tout le monde. Même dans le mariage, on doit être consacré à Dieu. On doit être arraché littéralement au monde. Mais dans le mariage, je viens de vous l'expliquer tout à l'heure, comment être arraché au monde dans le mariage, bah, tout simplement, c'est que quand je vis des relations conjugales, uniquement par voie sacramentale. Bah, pardon, ah bah, dans le mariage, il faut toujours se poser la question, qui est le saint et qui est le martyr. Et souvent c'est alternatif. C'est pour ça que c'est alternatif. Oui, parce que c'est la, l'Esprit Saint, la purification, le blanc et le noir, c'est la fécondité. L'énergie, comme dit saint Hildegard, c'est l'homme. Et la femme ne fait que puiser l'énergie pour lui donner sa fécondité extérieure. La vie, c'est l'homme qui vient. C'est un type de garde. C'est donc la femme puise et accueille l'énergie, la vie. Et elle est là pour donner à la vie de l'homme son développement extérieur. L'enfant, la fécondité. L'enfant, est, c'est une des trois fécondités, mais toutes les fécondités sont dans l'homme. C'est pour ça que la femme sort de l'homme. Elle sort de l'homme. À cause de ça. C'est dans le mariage, c'est quelque chose d'assez fort, c'est assez justement. La ceinture de garde, elle balèze, c'est un petit peu bizarre. Sur la nature, sur tout ce qui est d'ordre de la nature. Elle est très 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 extraordinaire. Elle avait vraiment su l'esprit de science, la ceinture de garde. Pour comprendre comment Dieu voyait tout ce qui était créé, notamment dans la mariage. Je dois l'avoir, peut-être, je ne sais pas si je l'ai ici, peut-être enfin, en gros, elle explique ça, ce qui est parfaitement exact, et on le voit bien déjà au point de vue physique, physiologique. C'est vrai, la semence, la femme l'accueille et donne à cette semence d'être secouée et de se développer. Donc, déjà au point de vue physique, c'est vrai, mais elle parle surtout au point de vue donc, du cœur. Oui, qu'est-ce qu'il y a comme question? Non, pas très bien, donc vous voyez que toute consécration est un martyr. Même dans le mariage, il y a une consécration, est un martyr, puisque vous vous retirez, je veux dire, de la manière humaine de vivre du monde de vivre du mariage. Parce que dans sa couronne de mariage, je vis d'une manière humaine, justement, puisqu'on vit par le haut. Mais la consécration à Marie, c'est un martyr aussi, puisqu'on lui donne tout. Donc Marie est comme le pape, hein, quand il est mis à martyr. C'est le pape qui a dit ça, hein, quand il... Tout de suite, la première année de son pontificat, il a dit, la Pierre, je m'a tenu à l'église pour que je la conduise au martyr. Oui, au martyr, à la consécration, quoi. Tout simplement. C'est ce qu'il va faire. sont vraiment consacrés très intérieurement, très intimement, de manière qu'on ne soit plus du monde, quoi, hein, intérieurement, même, et ça ne se verra pas d'extérieur. De l'extérieur, ça se verra pas. Pas peine d'évoluer, Jésus est ressuscité, tout. C'est intérieur. Tout intérieur, c'est très intime, la concentration. Un artiste cool, très intime, très profond. Donc à chaque fois que la grâce augmente dans mon âme, vous voyez, dès que vous êtes devant le Saint-Sacrement, immédiatement, c'est pour ça que c'est si beau d'exposer le Saint-Sacrement. Parce que, surtout la nuit, parce que vous mettez là pendant une heure, vous avez l'occasion, et ça l'esprit distribue ses dons, d'avoir des moments de ferveur, hop, l'esprit de sagesse. Et puis, des moments de purification très intenses. Alors là, rendez grâce à Dieu.
Parce que vous comprenez bien que le fait que nous ayons la grâce en tout temps dans notre âme, bah, ça vient de notre âme.
Est-ce que vous avez des questions à poser? Non? Ça va? Tout est clair, quoi. Ouais.
Bah, ça veut dire que ça vient de notre sainteté. Ça ne vient pas de notre volonté, ça ne vient pas de notre volonté, ça vient de notre sainteté.
Eh bien, je vous donnerai peut-être un tableau. Je vous donnerai un tableau. Il est là, tiens. Je crois qu'il est dans mon sac. Je peux vous donner un tableau à chacun. Et puis la prochaine pipi, ce sera de l'expliquer le tableau. Parce qu'il y a 50 lignes et 7 colonnes. C'est les correspondances entre les 7 dons du Saint-Esprit, les 7 péchés, les 7 dimensions de l'homme, les 7 degrés de l'amour, les 7 sacrements, les 7 commandements de Dieu vis-à-vis du prochain, les 7, les 7 paroles du Christ en croix, les 7 demandes de notre Père. Ça, c'est seulement le numéro 2. Ça, tiens, c'est dans la page précédente. Voilà, comme ça.